Nous allons maintenant lire la parole de Dieu telle que nous la trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8. Apocalypse 8, les versets 1 à 6. Apocalypse 8, 1 à 6. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et ses trompettes leur furent données. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir de me retrouver devant vous et avec vous aujourd'hui pour étudier une fois de plus ce texte de l'Apocalypse. Mais je dois dire que ce matin, lors de notre étude biblique commune, il est apparu une fois de plus que ce livre de l'Apocalypse est un résumé, une synthèse de tous les livres de la Bible, un résumé, une synthèse du plan du salut. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, s'il pose beaucoup de questions, il répond aussi à beaucoup de questions que l'on peut se poser, et ce matin, on en a eu l'occasion. Alors, je vous remercie de votre accueil, et je vous remercie du fait que quand on arrive chez vous, eh bien, on se sent attendu, accueilli, on se sent bien, et je me sens bien parmi vous. Alors, laissez-moi vous le dire en toute simplicité, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Si j'ai demandé qu'on lise ce texte-là, c'est parce qu'en réalité, nous allons étudier pendant ce week-end les trompettes. Mais c'est un sujet qui couvre quatre chapitres, chapitres 8, 9, 10 et 11, et c'est un sujet extrêmement dense, et je ne sais pas si nous aurons le temps dans les cinq séances qui nous sont imparties. Celle-ci étant la première, deux cet après-midi et deux demain matin, si nous aurons le temps de voir l'ensemble de ces cinq chapitres. Mais nous irons aussi loin que nous pourrons, et par la grâce de Dieu, nous avancerons. Parce que le plus important n'est pas de couvrir ces chapitres, mais c'est que nous avancions ensemble dans la connaissance de sa parole. La scène qui vient de vous être lue, en réalité, est l'introduction aux trompettes. Alors, cette introduction est essentielle. En général, quand on étudie ces septénaires, puisqu'il y a les sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, on va directement au vif du sujet. Peut-être sans se rendre compte que l'introduction, elle, va fixer un cadre. Et j'aimerais, avec ces quelques versets d'introduction aux trompettes, fixer le cadre de ces trompettes. Et ce que nous allons étudier en premier, le premier point que nous allons voir, et j'espère ne pas trop déborder, bien que je sois coutumier du fait, mais ce que nous allons étudier en premier, c'est le lien qu'il y a entre les sept trompettes et les sept sceaux qui précèdent. Alors, il y a quatre arguments principaux. Nous en verrons deux simplement, les deux premiers. Le premier argument va essayer de nous montrer que les trompettes ne sont pas en parallèle avec les sceaux, mais sont une suite aux sceaux. Pour ceci, nous allons revenir au chapitre 7. Et puis le deuxième argument est tout simple, c'est que quand vous commencez à lire le chapitre 8, on vous parle du septième sceau, Il y eut un silence d'environ une demi-heure à l'ouverture du septième sceau, et dans la foulée, sans transition, sans qu'aucun élément vienne apporter une césure dans le texte, une coupure, on nous dit que cet ange reçoive cette trompette, comme si le texte suivait naturellement. Alors voyons le premier de ces arguments. Les deux autres sont tirés du texte d'Ézéchiel ou de l'unité d'action des sceaux et des trompettes, mais je ne m'y attarderai pas. Quand nous remontons au chapitre 7 d'Apocalypse, si nous lisons les premiers versets, nous lisons ceci. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Vous avez bien noté, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, pour sceller ces personnes qu'on va nous décrire au chapitre 7, qui sont les 144 000, donc vous voyez que nous sommes sur la fin à ce moment-là, pour sceller ces personnes, le système-là, qui va les sceller, a besoin de temps. Et il dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer et aux arbres. En d'autres termes, il est prévu que du mal va être fait à la terre, à la mer et aux arbres. Et je pense que notre monde est assez clair là-dessus pour dire que du mal est fait à la terre, à la mer et aux arbres, et que probablement plus de mal encore va lui être fait. Eh bien, avant que les grandes catastrophes n'arrivent, Dieu va sceller un peuple. Et s'il y a cette attente, là, cette préparation, c'est que Dieu a besoin, et je le mets entre guillemets, bien entendu, a besoin d'un peuple préparé pour ce temps-là. Eh bien, ce que nous allons voir avec les trompettes, c'est cette période difficile, et nous verrons de quoi il s'agit, mais avant, et ça nous l'avons vu la dernière fois, Dieu prépare un peuple. Et si nous allons vers les premières trompettes, regardez bien, chapitre 8, verset 7, « Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et à la deuxième trompette, le tiers de la mer devint du sang. » Donc la terre, la mer et les arbres sont touchés au chapitre 8. Et par conséquent, dans le déroulement de la prophétie, pas simplement dans l'énoncé de la prophétie, mais dans le déroulement de la prophétie, les événements décrits par les trompettes sont postérieurs au scellage des 144 000. Alors je sais que cette manière de voir les choses n'est pas très habituelle, n'est pas très classique, mais je pense qu'elle est textuelle. Et je vous invite à rentrer, si vous le voulez bien, dans cette logique-là pour voir la suite des événements. Le deuxième argument, je vous l'avais dit, c'est la continuité dans le texte. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fut redonnée. Et vous voyez que dans le déroulement du texte, les sept trompettes arrivent après l'ouverture du septième sceau. J'avance donc un petit peu, et je vais résumer cela sous la forme d'un schéma. Nous avons au chapitre 7 le scellage des 144 000. Il est bien dit de ne pas faire de mal à la terre, à la mer et aux arbres jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Les trompettes font du mal à la terre, à la mer et aux arbres, en particulier la première et la deuxième trompette. Avec le scellage, nous sommes dans le sixième sceau. Au septième sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure, et puis commencent les trompettes. Maintenant que nous avons fixé le cadre, Voyons ce que nous disent ces premiers versets du chapitre 8. Le texte vous a été lu, je ne vais pas le répéter. Je vais simplement rappeler que la fête des trompettes, dont vous savez qu'elle se situe à la fin de l'année juive, du 1er au 10e jour du mois de Tichri, et qui aboutissent à ce 10e jour, au jour des expiations, au jour du Yom Kippour, cette fête des trompettes précède donc ce jugement du Yom Kippour. Mais après ce jugement, il y a la fête des cabanes, qui est une fête de festivité, de réjouissance. Et je ne sais pas si vous le savez, mais justement, ces réjouissances viennent de se terminer. Et selon, je crois que je l'ai là, nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2013, dans le calendrier grégorien. Eh bien, nous sommes aussi le 24 Tichri de l'année 5774 juive. Et le 22 Tichri, c'était la fin du cycle des festivités. C'est-à-dire que le jour des expiations a eu lieu à peu près il y a 15 jours, et le cycle vient de se finir jeudi dernier. Voilà. Donc, j'avance un petit peu, ça c'était simplement pour se fixer sur l'actualité. La première question que l'on peut se poser sur le texte qui nous est présenté là, c'est quel est cet ange qui est debout devant l'autel, devant l'autel. Non, si vous regardez bien le texte, il est dit sur l'autel. Et ça, c'est une particularité que vous ne retrouvez que dans un seul texte de l'Ancien Testament, chez le prophète Amos. Alors, lisons ce texte, et puis on va le regarder en détail, parce que ce texte, avec son contexte, va nous amener des éléments très intéressants pour voir dans quel contexte on peut comprendre cela dans l'Apocalypse. Amos 9.1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leurs têtes à tous. Je ferai périr le reste par l'épée, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. Ce n'est pas un texte très réjouissant et qu'on cite souvent, mais je vous le cite simplement pour le début de la phrase, et je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Alors, essayons d'examiner un petit peu la suite de ce texte. S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. J'arrive au verset 5. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous les habitants sont dans le deuil. Vous voyez, il s'agit pour Dieu de toucher la terre et elle tremble. Eh bien, vous verrez que dans les trompettes, il est question à plusieurs reprises que la terre tremble. Elle monte tout entière comme un fleuve et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Vous retrouverez cela dans le déroulement des trompettes. J'avance encore un petit peu. J'arrive au verset 9 et il est dit « Car voici, je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec un crible. » Et vous voyez, ce texte-là nous amène à cette idée particulière qui est assez connue dans le milieu adventiste, mais que l'on rattache mal à la période des trompettes, c'est que le peuple de Dieu sera secoué, sera criblé. Alors on voit cela comme une période difficile, et ce sera une période difficile. Le texte est assez clair pour nous le dire. Mais j'aimerais souligner ce qui est dit à partir du verset 11. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison dite de David et j'en réparerai les brèches. » Et j'aimerais vous montrer que si le peuple de Dieu est appelé à passer par une période de crible, et je crois que nous y passerons, c'est en vue d'une reconstruction. C'est en vue d'être rebâti. C'est en vue d'être ressoudé. Et je crois qu'il nous faut le voir avec plaisir. même si sur le moment, c'est douloureux. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près les moissonneurs, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. S'il y a un rétablissement, une reconstruction du peuple, c'est dans quel but? Eh bien, c'est dans le but de l'évangélisation. C'est dans le but de répandre l'évangile au monde entier. Et la perspective heureuse que nous donne ce texte, c'est que le laboureur suivra de près le moissonneur. Mais si nous prenons cela sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il y a une évangélisation. Rapidement, il y a des gens qui se convertissent. Se convertissant, à leur tour, ils lancent l'évangile. Et à leur tour, ils ont des résultats. Et donc, vous voyez, si nous prenons cela dans un sens spirituel, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une explosion d'évangélisation et une explosion de résultats dans l'évangélisation. Alors voilà, ce texte-là pour moi est très encourageant. Je vous le relis, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. La suite du texte, petit à petit, nous amène à la description qui pourrait bien ressembler à la nouvelle terre, mais il me semble que ce verset 13 pourrait fort bien s'appliquer à ce que vivra le peuple de Dieu dans les derniers jours. J'en arrive maintenant à poursuivre cette question. Quel est donc le personnage qui, dans notre texte, au chapitre 8, se tient sur l'autel et offre du parfum? Eh bien, il faut que vous sachiez, et vous le savez certainement, que le fait d'offrir du parfum était l'apanage, c'est-à-dire l'exclusivité du grand prêtre, du souverain sacrificateur. Or, un seul et notre grand prêtre, et vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. Par conséquent, ce personnage qui offre des parfums n'est autre que Jésus-Christ, même s'il nous est présenté comme un ange. Un ange n'est autre qu'un messager. Et Jésus n'est-il pas un messager? Par conséquent, si vous voulez, on va regarder quel est ce messager. Et dans l'épreuve que Moïse a proposé à Corée, Dathan et Abiram, qui contestaient la prêtrise d'Aaron et qui contestaient l'autorité de Moïse, le test qu'il leur a proposé, c'était d'offrir des parfums. Donc, si vous voulez, c'était la clé. Donc, il ne s'agit pas là de quelque chose de banal et de secondaire. On voit souvent le sacrifice comme l'élément essentiel du sacrificateur. Mais l'offrande du parfum était vraiment le critère et le test. Nous reparlerons de Corée, Dathan et Abiram. Alors, le sacrificateur, en général, se tient à côté de l'autel, mais non sur l'autel. Que signifie le fait qu'il soit sur l'autel, sinon qu'il est lui-même l'offrande, qu'il est lui-même le parfum? Le parfum de bonne odeur qui est offert à Dieu. Et en ceci, je rejoins simplement ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Maintenant, arrivons, puisque nous avons identifié le personnage qui offre des parfums, arrivons à la cérémonie elle-même. Vous savez qu'il y a deux cérémonies différentes dans l'offrande des parfums. Il y a deux services. Le service journalier, et là on offrait des parfums matin et soir. Et puis vous avez le service annuel, qui se passait ce fameux Yom Kippour, ce fameux jour des expiations. Eh bien là, dans ce service qui nous est décrit en quelques versets, nous avons des éléments des deux. Dans le service journalier, le parfum était offert sur l'autel. C'est ce qui se passe ici. Dans le service annuel, le sacrificateur prenait un encensoir, un brasero si vous voulez, une cassolette, sur laquelle il mettait quelques charbons ardents pris de dessus l'autel, et il jetait sur ces charbons ardents deux poignées de parfum odoriférant. Vous me direz, quelle est l'utilité de ces choses-là? En réalité, il me semble que ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme le grand prêtre allait pénétrer dans le lieu très saint, il ne pouvait y pénétrer qu'entouré d'un nuage d'encens qui le protégeait en quelque sorte de la présence même de Dieu, parce qu'il en allait rentrer dans la présence même de Dieu. Et il fallait donc qu'il crée une sorte d'autel annexe, d'autel portatif qu'il allait amener avec lui, pour que cet autel puisse continuer à répandre cet encens, l'entourer et l'accompagner dans son trajet dans le lieu très saint. Il y avait donc cet autel annexe fait de ce brasero sur lequel il avait mis des charbons ardents pris de dessus l'autel et sur lequel il avait jeté deux poignées de parfum odoriférant. Dans le texte qui nous est décrit, là au chapitre 8, nous voyons la présence d'un encens, nous voyons la présence de parfums odoriférants, nous voyons la présence de charbons ardents. Donc tout cela nous rapproche d'un service annuel. De plus, il y a également le fait que le jour des expiations, tout le peuple, pendant que le grand prêtre faisait tout cela, tout le peuple était dehors et était en prière. Or, le texte nous dit qu'il offrait ses parfums avec les prières de tous les saints. Nous avons donc deux ou trois éléments pour nous dire que ce service ressemble au service annuel. L'élément qui me paraît important maintenant à souligner, c'est que ce service annuel correspondait aussi à un jugement. Et dans la tradition juive, ce jour des expiations était considéré comme un jugement. La raison, vous la trouvez dans le texte de Lévitique 23, verset 29, « Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Ce jugement, bien sûr, concerne les vivants et ceux qui s'humilient. Ça aurait été un lien avec Ézéchiel. J'arrive maintenant à un dernier élément. C'est que si ce texte nous amène à comprendre que ce service tient à la fois du service journalier et du service annuel du jour des expiations, il comprend également un troisième élément qui n'appartient ni au service journalier ni au service annuel. Parce que ce personnage, cet ange, va prendre des charbons ardents de dessus l'autel et va les jeter sur la terre. Et ça, ni dans le service journalier, ni dans le service annuel, ça se passait. C'est un service exceptionnel. Ce que je vous propose maintenant, c'est en quelques minutes d'examiner une circonstance dans l'histoire du peuple d'Israël où ceci s'est réalisé. Une fois, Aaron a été amené à prendre des charbons ardents de dessus l'autel et à les amener dehors et à offrir du parfum. Eh bien, ceci, c'est la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Alors, on va lire juste quelques extraits pour se remettre dans le contexte. Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliam, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, et ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Vous voyez donc la révolte avec trois ou quatre meneurs et 250 hommes de renom, des gens d'importance dans le peuple, qui se révoltent contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « Ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» À ce moment-là, Dieu va se manifester. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » J'imagine qu'un jour nous soyons menacés de mort, persécutés, et qu'une foule en colère vienne menacer l'église de Damary-les-Lys. La chose se produit dans certaines parties du monde. À ce moment-là, on entendrait la voix de Dieu dire « Retirez-vous de cette assemblée, je vais les punir, je vais les brûler. » Je pense qu'une bonne partie d'entre nous tomberait sur leur face, remerciant Dieu, disant « Merci Seigneur. » Eh bien, ce n'est pas ce que font Moïse et Aaron. Ils tombent sur leur face, oui, mais que disent-ils ? Ils implorent Dieu pour ceux qui les agressent. Et ils vont prier Dieu en disant « un seul a péché » ou « très peu ont péché » en traînant cette masse derrière eux. Et tous périraient. Ils vont intercéder pour le peuple. Mes amis, pour moi le temps des trompettes, c'est un temps où le peuple de Dieu, menacé de mort, sera capable, aura ce réflexe de prier Dieu, d'implorer Dieu, pour ceux-là même qui le menacent de mort. Est-ce que je peux dire qu'il me semble que nous ne sommes pas encore dans le temps des trompettes ? Et c'est à cela que Dieu veut préparer son peuple, rendre son peuple tellement sensible, tellement attentif au monde qui l'entoure, qu'il sera dans la situation d'implorer Dieu, de lever sa main, de ne pas sévir, de donner encore du temps pour un monde qui ne sait pas. Ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée ?» Alors vous savez la suite. Ces hommes ne se sont pas repentis. Les 250 qui offraient du parfum ont été brûlés par le feu de l'autel. Et ceux qui entouraient Dathan et Abiram et leurs familles ont vu la terre s'ouvrir et les engloutir. Ces signes tout à fait miraculeux auraient dû convaincre. Mais ça n'a pas été le cas. Et quand la révolte gronde, la logique n'est plus au rendez-vous. Dès le lendemain, verset 41, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Ce sont des signes tout à fait miraculeux qui se sont produits. Mais non, pour le peuple, c'est Moïse et Aaron qui sont responsables. Comme s'ils étaient capables de tremblement de terre, ou de faire ouvrir la terre, ou de faire sortir le feu de devant l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, Voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Et Dieu se manifeste encore de manière visible. Et il ajoute, retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. Et que font-ils? Ils tombent sur leur visage. Et Moïse et Aaron, mais Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté et la plaie a commencé. Et Moïse va donner un ordre à Aaron absolument hors de tous les services qui avaient été proposés jusque-là. Et il lui dit, va prendre de l'autel de dessus, va prendre des charbons ardents de dessus l'autel, dans un brasero, et tu vas l'amener hors du temple. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Aaron, il court, parce que la plaie a éclaté. On est dans un contexte d'urgence, d'extrême urgence. Le temps des trompettes est un temps d'extrême urgence, où les plaies sont là, prêtes à éclater, et où le peuple de Dieu a un rôle particulier, et on va voir quel est ce rôle. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Est-ce que le rôle du peuple de Dieu n'est pas d'aller prendre des éléments du sanctuaire sur l'autel, des charbons ardents, et de les amener, et de se placer entre les vivants et les morts, et de faire l'expiation? Je crois que c'est à cela que nous appelle Dieu dans ces derniers temps. Alors, nous pourrons dire que nous avons atteint ce temps décrit dans ce passage, quand le peuple de Dieu intercédera pour sauver ceux-là même qui le menacent de mort, quand il se placera entre les vivants et les morts pour intercéder et arrêter la plaie qui détruit le peuple dans une situation d'extrême urgence. Quand il se sentira nu devant Dieu, sans lui cacher aucune faute, et aura, par sa grâce, remporté la victoire sur tout péché, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Le sens des charbons ardents. Ces charbons ardents vont servir à l'expiation. Et dans le texte, là, ils sont jetés sur la terre. Si vous prenez le texte parallèle dans Ézéchiel 9, 10, ils sont jetés sur la ville. Mais ce feu qui descend du ciel évoque quoi? Sinon, la Pentecôte. Quand des langues de feu sont venues descendre et se poser sur chacun des disciples. De la même manière, on peut considérer que ce feu qui descend du ciel sert à la fois pour l'expiation du peuple, mais vient se poser sur le peuple de Dieu. Mais est-ce en vain? C'est pourquoi qu'il vient se poser sur le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Sinon que ceux qui ont reçu cet esprit de Dieu, cette pluie de l'esprit, ont été capables de prêcher. Et c'est en vue de la prédication. Et je pense qu'on peut assimiler ce feu qui descend du ciel à ce que l'on a l'habitude d'appeler, selon le texte de Joël, la pluie de l'arrière-saison. Alors vous avez l'exemple d'Ésaïe, et on est allé chercher des charbons ardents de dessus l'autel, et on a oint ses lèvres. Son iniquité était expiée, nous dit le texte, mais cela l'a préparé à la prédication. Est-ce que le peuple de Dieu n'est pas ainsi préparé à la prédication? Je crois que c'est cela que nous dit ce texte-là. Alors je dis, malheur à moi, c'est Ésaïe qui parle. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Ce peuple préparé, c'est un peuple qui peut dire à l'appel du Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais pour prêcher un message qui n'est pas facile, il dit alors, va, dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez, vous ne saisirez point. Vous imaginez si nous étions munis d'un tel message, vous voyez aller prêcher dans les rues, vous entendrez et vous comprendrez rien. Vous verrez et vous saisirez rien. Ce n'est pas un message facile à dire. Nous n'aurons pas un message facile à dire. Nous n'avons pas forcément un message facile à entendre. Pourtant, c'est un message de salut qui nous est donné. Alors, j'aimerais retenir une dernière idée que nous avons évoquée. Quand nous abordons le verset 6 de ce passage, il est dit « Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. » C'est la notion de préparation. Dieu, pour ces derniers temps, pour ces derniers événements, Dieu prépare un peuple. Mais pour la préparation de ce peuple, il va faire un tri. C'est le crible dont nous avons parlé. Mais il va lui donner un message bien précis, une mission bien précise. Et pour cela, il va oindre de charbons ardents. Il va oindre ses lèvres de charbons ardents. Si cela est vrai pour son peuple, et nous l'avons vu en début d'exposé, cela est vrai aussi pour les événements qui vont se produire. Vous me direz, mais est-ce que la terre n'est pas touchée ? Est-ce que les arbres ne sont pas touchés? Est-ce que la mer n'est pas touchée? L'écologie est là pour nous le rappeler tous les jours. Rappelez-vous ce qu'est un coup de trompette. Un coup de trompette, c'est quelque chose qui vous fait sursauter, qui vous réveille. Un jour, on s'est réveillé avec l'annonce d'un Tchernobyl ou d'un Fukushima. Voilà quelque chose qui sonne comme un coup de trompette. Je ne vous dis pas que c'était ces trompettes-là. Mais ces trompettes, ce sont des événements graves, dramatiques. Simplement, vous comprenez que ces événements graves se préparent. Il y a un fond de dégradation de notre environnement, mais ceci n'est que la préparation d'événements beaucoup plus importants. Et dans ce temps-là, dans ce temps des trompettes, Dieu prépare un peuple avant que cela arrive. Il ne permettra pas, Dieu ne permettra pas que ces événements catastrophiques arrivent sans avoir préparé un peuple à donner un message, pas un message facile, mais un message de salut au monde. Notre monde est appelé à vivre des instants dramatiques. Que va dire le peuple de Dieu? Il ne va pas simplement subir. Il a quelque chose à dire. Nous en parlerons un petit peu plus quand nous parlerons des messages des trois anges, parce que c'est cela qu'il doit dire. C'est un message de salut. Dieu prépare un peuple. Mais ce que je peux dire sur la base du texte que nous avons vu tout à l'heure d'Amos, excusez-moi, c'est Amos 9, verset 13 et pas 1. C'est qu'à ce moment-là, s'il y a des sujets de tristesse parce que notre terre est secouée, il y a des sujets de joie et d'une grande joie. Parce que cette évangélisation, cette diffusion de l'évangile sera suivie d'effets, de gens qui donnent leur cœur au Seigneur et qui le donnent tant, avec tant d'amour, de conviction, qu'ils seront eux-mêmes des prédicateurs à leur tour, et que ce sera comme une traînée de poudre, ce sera comme une diffusion d'un parfum de bonne odeur devant Dieu. Donc si des événements dramatiques et tristes sont devant nous, des événements d'une grande joie devant le Seigneur, sont aussi devant nous. Voulons-nous faire partie de ce peuple ? Dieu nous y invite. Et Dieu nous invite chacun en particulier. Il n'est pas trop tard, mais il n'est pas trop tôt non plus. Et le temps de la préparation est juste là.